Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Quand j'ai appris la mort soudaine de Charles Aznavour, je me suis dit, il faut que je raconte un bout de sa vie. Donc je me suis plongé dans ses autobiographies, notamment Le Temps des Avants, paru en 2005 chez Flammarion, et dans l'excellente biographie qu'a écrite Robert Bellery aux éditions de l'Archipel. Alors j'ai choisi de raconter le tout début de l'histoire de Charles Aznavour, son enfance d'enfant de la balle au début des années 30, son adolescence assez insouciante finalement pendant la Deuxième Guerre mondiale à Paris, sous occupation allemande, et puis jusqu'à sa rencontre après-guerre avec Édith Piaf qui va le lancer dans le grand bain. J'avoue que je me suis régalé à écrire pour vous cette histoire et j'y ai passé une petite partie de ma nuit. La réalisation est signée Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Comment et pourquoi sa mère, Nar Bagdasarian, turque d'origine arménienne, et son père, Mamigon Asnaourian, géorgien d'origine arménienne, se sont-ils retrouvés à Paris un jour de 1923? Eh bien, Charles ne l'a jamais vraiment su. Ses parents n'ont jamais vraiment raconté. Ils n'en parlaient jamais du génocide, de comment ils y avaient échappé. Ils n'en parlaient pas. Et il ne sait pas non plus comment ils se sont rencontrés, ni comment ils se sont aimés. Il sait juste qu'un jour, 7 ou 8 ans après le génocide, ils sont montés sur un bateau italien à Istanbul, en Turquie, et ils ont atterri en Grèce, à Salonique. C'est là que sa mère a accouché de sa première fille, Aïda. Et ensuite, ils ont pris un bateau pour Marseille, et ils se sont retrouvés à Paris. Mais pas dans l'idée de rester en France. Ils voulaient aller aux États-Unis, la terre promise de tous les migrants. Alors ils sont allés à l'ambassade américaine.
Bonjour. Voilà, nous sommes d'origine arménienne. Nous voudrions émigrer aux États-Unis. Comment faut-il faire? Vous avez des parents là-bas? Vous parlez anglais? Ah non. Quoi qu'il en soit, le quota pour les Arméniens est complet pour cette année. Ah, bon. Mais vous pouvez remplir ce formulaire et on vous dira quand vous pourrez partir, si votre dossier est accepté. Entendu.
Les parents Aznaourian attendent donc, dans un tout petit appartement, boulevard Brune. Ils ne parlent pas un mot de français, pas facile pour les démarches. Et puis au bout d'un an, ça y est, ils ont le visa. Ils ont le visa pour l'Amérique. Sauf qu'entre-temps, ils se sont acclimatés à la France. La mère ne veut plus partir.
Micha, on est bien ici, non? Pourquoi partir encore, hein? T'as du travail, moi je suis enceinte. On reste en France, non?
Ça s'est joué à pas grand-chose. Les Aznaourian ont bien failli être américains. Le père a du travail, en effet. Et vous savez quel est son travail? Il est chanteur, baryton avec une voix d'opérette. Chante dans les balles en russe et en arménien. Et la mère, ça c'est vrai, est enceinte de son deuxième enfant. Elle accouche le 22 mai 1924 dans une clinique pour les indigents, la clinique Tarnier, rue d'Assas.
Comment voulez-vous l'appeler? Chanour. Comment vous dites? Chanour. Bon, Charles, ça vous va, hein? Eh bien, ça sera Charles.
Et la petite famille Aznaourian, qui vient de s'agrandir, s'installe dans le quartier latin, au 36 rue Monsieur le Prince. Une seule pièce, une cuvette, un broc à eau. Les parents dorment dans une alcôve fermée par un rideau et Aïda et le tout petit Charles, tête bêche dans un lit pliant. Le père continue de chanter dans les balles des immigrants russes ou arméniens. Mais disons la vérité tout de suite, c'est un noceur. Il passe sa nuit à faire la fête et à picoler. Et la mère aussi est un peu artiste. Elle joue dans de petites pièces ou des opérettes de la communauté arménienne de Paris. Et pour arrondir ses fins de mois, elle fait de la couture et de la broderie. Voilà comment a commencé la vie du jeune Charles Aznavour. Dans l'ombre de parents fantaisistes et aimants. Et un soir, Le petit Charles a dans les 3 ans. Les parents ont monté une petite troupe, ils chantent des opérettes arméniennes dans un petit théâtre. Et comme ils n'ont pas les moyens de se payer une nounou, à chaque représentation, ils emmènent leurs 2 enfants, Aïda et Charles, qui passent le spectacle à jouer dans la coulisse. Et un jour, juste avant le spectacle, le petit Charles monte sur la scène et il entr'ouvre le rideau. Waouh ! Et il se retrouve seul face au public, seul, 3 ans. D'autres seraient partis en courant, pas lui. Il se met à réciter un poème en arménien et les gens applaudissent. Ce soir-là, devant un public d'émigrants, j'attrapais le virus qui depuis ne m'a jamais quitté. Sa première scène, 3 ans. Et en 1933, Charles va sur ses 8 ans. Ses parents l'inscrivent dans une école qui est juste en face de chez eux. Une école qu'ils choisissent par commodité donc. Mais qui est une école un peu particulière, l'école des enfants du spectacle. Elle a été créée par un ancien sociétaire de la Comédie française qui s'inquiétait que beaucoup d'enfants comédiens soient illettrés. Et donc il a créé cette école pour que les apprentis comédiens apprennent à lire, à écrire et à compter comme les autres. Sauf que les cours commencent à midi. Pour permettre aux futurs acteurs de jouer le soir dans des troupes, de se coucher tard et donc de se lever tard. Et ça va donner des idées au petit Charles. Un jour, sans rien dire à ses parents, il envoie une lettre au directeur du théâtre du Petit Monde. « Cher monsieur, vous faites des spectacles pour enfants, je voudrais y participer. » 8 ans. Et il est convoqué pour une audition. Il ne sait rien faire. Il n'a rien à présenter. Si. Si peut-être une danse, il connaît une danse cosaque. Alors il demande à sa mère de l'accompagner au piano et il se met à danser. Comme dans les chœurs de l'armée rouge, vous savez, accroupi en lançant les jambes en avant façon Kazachok. Merci, laissez-nous votre adresse, on vous écrira. Candidat suivant. Eh bien 15 jours plus tard, le petit Charles reçoit une lettre. On lui propose un petit rôle, son premier rôle, sur la scène du Vieux Trocadéro, à la veille de Noël 1933. Juste après, un metteur en scène vient à l'école des enfants du spectacle. Il cherche un enfant pour jouer le rôle d'un noir. Il fait aligner tous les élèves contre le mur du fond de la cour et il les interroge un par un. Et il arrive à la hauteur de Charles. « Toi, petit, tu sais faire des accents ?»« Ah, moi, j'apprends tout ce que vous voulez, monsieur. » Je voudrais un accent africain. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Tu te présentes lundi matin au studio des Champs-Élysées. J'aurai peut-être un rôle pour toi. Et voilà comment Charles, 10 ans, se retrouve sur scène pour 30 représentations, le visage peinturluré de noir. Et encore après, en novembre 1935, Charles joue le jeune Henri de Navarre, le futur Henri IV, sur la scène du théâtre Marigny, aux côtés de Pierre Fresnay et d'Yvonne Printemps. Il gagne 10 francs par répétition et 14 francs par représentation. Il garde une pièce ou deux et tout le reste, il le donne à sa mère. Tout ça pour dire que le jeune Charles a commencé comme comédien. Alors que sa sœur, elle, Aïda fait déjà la chanteuse. Aïda a dans les 14 ans, elle vient d'intégrer une troupe. La troupe d'un chanteur marseillais qui s'appelle Prior. Et un jour, Charles rejoint la troupe. Pas encore pour chanter, pour l'instant, il a un numéro. Il fait l'imitateur. Il imite, entre autres, Charlie Chaplin. Mais c'est comme ça qu'il découvre les joies d'une tournée en voiture. Imaginez l'aventure. Charles a quoi ? Dans les 10-11 ans, il part en tournée en Provence, en voiture. Quelle initiation à la vie d'artiste ! Nous avons eu des parents en or, qui nous faisaient confiance, qui nous laissaient la bride sur le cou. Artistes pleins de fantaisie et néanmoins parents responsables. Le père Aznaourian, je vous l'ai déjà dit, est un joyeux de riz. Sous prétexte de chanter, il est dehors presque tous les soirs. Et il lui arrive de rentrer au beau milieu de la nuit. Mais pas sur la pointe des pieds, hein. Il réveille tout le monde. Souvent, il rentre avec des partitions de chansons qu'il a achetées dans les boîtes de nuit. Il veut les chanter tout de suite. Hé Aïda, allez lève-toi. Tu te mets au piano ? lendemain matin, bonjour l'école. Nous étions heureux de nous savoir une famille différente de toutes celles que nous fréquentions. Et le père Aznavourian, s'engage dans l'armée française. Il part. Et Charles, sa mère et sa sœur en larmes vont l'accompagner à la gare d'Austerlitz.
Chérie, les enfants, vous me promettez, hein, vous restez à Paris. Vous ne partez pas, vous ne quittez pas Paris, d'accord ?
Donc on reste à Paris, malgré l'avancée des Allemands, qui ne sont plus très loin maintenant. Et il faut trouver de l'argent. Charles se met à faire du commerce. Il commence par acheter un stock de tablettes de chocolat et il les revend au coin de la rue. Et il fait pareil avec des baryones. Et puis quand les Allemands arrivent, il leur vend tout ce qu'il peut. Et puis finalement, le père rentre, assez vite. Et il échappe au stalag. Et le père, en tout cas c'est ce que raconte Charles dans ses mémoires, devient résistant, proche de Missak Manouchian, héros communiste de la résistance. Et les Aznaourian se mettent à aider notamment les Arméniens enrôlés de force par les Allemands. Voilà le plan, je vous explique. Les types débarquent en uniforme de la Wehrmacht chez Aznaourian. Hop, ils se déshabillent, le père leur donne des vêtements civils, et ils ressortent, pas vu, pas pris. Et qui va se débarrasser des uniformes allemands en les jetant à l'égout ? Eh bien Charles, 15 ans. Toujours pour gagner 3 sous, Charles se met à vendre des journaux à la criée, dans la rue.
Demandez Paris Soir !
Avec son père, il se met aussi à vendre des victuailles sur le marché. Des saucissons qu'ils vont acheter chez Olida et qu'ils vont vendre ensuite à deux sur un vélo dans les marchés de banlieue. Et puis rapidement, on ne trouve plus de saucissons, alors ils se mettent à vendre des chaussettes. Et puis petit à petit, malgré l'occupation, les cabarets commencent à réouvrir. Et le jeune Charles finit par se trouver une troupe. Il joue des sketchs, il fait une danse à pâche et il commence à chanter. Il commence même à composer sur le piano du salon. La chanson s'appelle « Il y a des hiboux dans le beffroi ». Et tous les soirs, il va chanter sa chanson dans un cabaret, le Jockey. Bon, honnêtement, il chante et personne ne l'écoute. Hein. Mais c'est comme ça qu'il se lance, pendant la guerre. Et un jour, il a le culot d'aller chanter sa chanson à l'un des compositeurs les plus célèbres du moment, Loulou Gasté, qui deviendra le mari de Lynn Renault. Il massacre sa chanson sur le piano de Loulou.
« Je vous remercie, jeune homme, mais ça n'est pas du tout le genre de chanson qui intéresse ma maison d'édition. »
Par sa sœur Aïda, Charles fait pendant la guerre la connaissance d'une bande de jeunes chanteurs et musiciens. Ils se réunissent dans un local près de la place Clichy, le soir. Normalement, pas plus tard que minuit, hein, parce qu'après, ça finit au commissariat, c'est le couvre-feu. Sauf que ça dégénère souvent en bal clandestin. De jeunes Parisiens, sous l'occupation. Charles se fait tout de suite adopter. Et du coup, quand la bande crée un club près des Champs-Élysées, le club de la chanson, eh ben, il donne un coup de main, et un coup de peinture, et un coup de menuiserie. Édith Piaf est là le soir de l'inauguration. Eh ouais. Et c'est là, chez ces jeunes Parisiens qui ont décidé de ne pas s'embarrasser de la guerre, que le jeune Charles fait à 19 ans une rencontre qui va changer sa vie. Pierre Roche, un bon pianiste, l'accompagnateur qu'il lui fallait. Parce que Aznavour joue un peu de piano, mais franchement pas bien. Pas assez pour s'accompagner lui-même. Et l'avantage de ce Pierre Roche, c'est qu'il est swing. Alors qu'Aznavour, pour l'instant, est un peu passo-doble, vous voyez, un peu musette. C'est Pierre Roche qui va l'amener au swing. À part ça, il faut que je vous dise. Côté look, le jeune Aznavour est un parfait zazou, comme on dit à l'époque. Les cheveux trop longs dans le cou, une veste trop large et trop longue, des falzards très étroits avec des grands revers, et des semelles bien épaisses. Pas du tout le look pétainiste, vous l'avez compris. Et le zazou, bien sûr, tombe amoureux. Micheline Rugel, 16 ans. Ils se marieront après la guerre. Et donc le duo Roche-Aznavour se lance. Ils n'ont pas de répertoire. Hein. Charles n'a qu'une seule chanson dans sa musette, « Il y a des hiboux dans le beffroi ». Alors, ils vont chanter du Charles Trenet, pour commencer. Mais Charles se colle à l'écriture et il en sort ça.
J'ai bu, j'ai joué et j'ai tout mis sur le tapis. À la roulette de la vie, t'as tout gagné, moi j'ai perdu. Alors j'ai bu.
C'est son premier succès. Vous avez remarqué ? Ça swing. C'est l'effet Pierre Roche. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Charles vient de découvrir un truc. Il sait écrire. Je pouvais, malgré mon manque de culture, écrire des rimes en respectant la forme et la césure. Pendant les deux dernières années de l'occupation, Charles et Pierre Roche vont donner des concerts à Paris et en province, figurez-vous, en pleine guerre. À Saumur, par exemple, ils y vont en vélo, à deux sur un vélo, un sur la selle, un sur le cadre. Il faut en vouloir, hein. Et ils en veulent. Et après Saumur, ils vont à Angers, et puis à Laval, et puis au Mans, toujours en vélo. Enfin, c'est ce que dit la légende. Parce que ça paraît un peu long quand même, comme périple, en vélo. Et puis, il faut que je vous dise, avec Aznavour, il y a la vérité et puis il y a la légende. Et il a toujours veillé à sa légende. Il l'a arrangée à sa sauce. Bref, la fin de la guerre arrive. Charles a déjà roulé sa bosse dans la chanson. Et c'est maintenant que ça commence, vraiment. À la fin de la guerre, Aznavour finit par se marier. Et à la fin de l'année 46, il décroche avec Pierre Roche un contrat qui le fait changer de catégorie. Il chante au Bœuf sur le Toit, près du rond-point des Champs-Élysées. C'est un endroit que fréquentent des gens comme Jean Cocteau, comme Jean Marais, comme Charles Trenet, comme Léo Ferré. Et donc Aznavour et Roche, les petits derniers, les moins connus aussi. 6 mois plus tard, voilà le duo invité d'une émission de radio, Music Hall de Paris, présentée par Francis Blanche. Et dont les invités principaux sont Charles Trenet et Édith Piaf. Eh bien les garçons, c'est pas le moment de vous louper.
Il formait un photopé, il parlait par onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pains.
À la fin de l'émission, Édith Piaf invite Charles à passer la soirée chez elle, avec Charles Trenet. Elle m'a demandé si je savais danser la valse à l'envers. J'ai dit oui. Alors elle a demandé qu'on retire le tapis et elle m'a fait valser à l'envers. À l'époque, Piaf est déjà une vedette. Et Charles lui a tapé dans l'œil. Et elle le veut lui et Roche sur sa prochaine tournée. 4 ou 5 chansons en levée de rideau. Et c'est lui qui, au début du spectacle, tous les soirs, fait ce qu'on appelle l'annonce.
Un seul nom et dans ce nom toute la chanson, Édith Piaf.
Et c'est parti. Mulhouse, Strasbourg, Bruxelles, Rouen, Le Havre, et puis la Suisse, Lausanne. Charles et Édith s'entendent comme larrons en foire. Et surtout pour picoler, après le spectacle, on ne les tient pas. Et qu'est-ce qui sort de tout ça? Eh bien, Aznavour est à la page. Même la grande Mistinguette lui commande des chansons modernes. Elle n'ira pas jusqu'au bout, mais c'est bon pour l'ego. Il est à la page parce qu'il swing. Dans ces années-là, il faut swinger.
J'aurais voulu être fidèle, vivre comme un homme modèle, mais mon cœur est inconstant.
Le premier disque du duo Roche-Aznavour sort chez Polydor en 1948. 4,78 tours. Et dans la foulée, Piaf sort sa première chanson, écrite par Charles. Il pleut.
Il pleut, les pépins touristes compagnons, comme d'immenses champignons, sortent un par un des maisons. Il pleut.
Et juste après, avant de s'envoler pour New York, Piaf lui glisse.
Et si vous veniez me voir en Amérique, ça serait chouette?
Ils en ont très envie, mais ils n'ont pas un sou. Sauf si leur éditeur leur fait une avance. Ils en ont très envie de l'Amérique. Alors l'éditeur dit oui. Et début septembre 1948, Aznavour et Roche s'envolent pour New York. Et à l'arrivée, il se passe un truc incroyable. Ils n'ont pas de visa et pas de billet retour. Alors, on les enferme sur l'île d'Ellis Island, au pied de la Statue de la Liberté, avec les immigrants clandestins, à 40 par dortoir. Et ça dure 3 jours. Et puis finalement, Charles finit par convaincre le juge de leur donner un visa. Et donc les voilà à New York, fin 1948, à Broadway, devant les affiches des music-halls, à baver, mais fauchés comme des rats. Charles est obligé de vendre des chaussures en piton qu'il s'était offert au carreau du Temple à Paris. On y est.
La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux.
Il faut bien que j'arrête mon histoire quelque part. Alors je vais l'arrêter là, parce que lui, il ne va jamais plus s'arrêter. Et ça va durer longtemps, très longtemps, jusqu'à cette fichue journée du 1er octobre 2018, où d'un coup c'est fini. Quelle vie.
La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet, passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé, mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème. Ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème,
d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.